Vous écoutez France Culture.
Merci Jean Lebrun et bonsoir à tous. Quatrième temps ce soir d'une semaine sur le bac philo dans les nouveaux chemins de la connaissance. Une semaine à l'intention des lycéens mais aussi de leurs parents. Fidèle à l'idée qu'on ne doit pas s'épargner ce qu'on inflige à autrui, tous nos invités de la semaine, tous les profs qui sont venus cette semaine, ont pris le risque pour vous de corriger un sujet, de repasser le bac à la radio, en direct ou dans les conditions du direct, sans plus de filet qu'un étudiant le jour de l'épreuve. C'est le cas de Michel Elchaninov, notre invité de ce soir, qui, après avoir longtemps enseigné en terminale, enseigne désormais la culture générale en prépéna à Paris 1. Bonsoir Michel Elchaninov.
Bonsoir.
Bonsoir, bienvenue sur France Culture, dans le studio ou la salle, faudrait dire peut-être, 168 de la maison de Radio France, où vous allez plancher pour tous nos auditeurs de France et de Navarre. Pendant une petite demi-heure sur le sujet suivant, peut-on juger objectivement de la valeur d'une culture ? Cher monsieur, nous vous écoutons.
Eh bien, d'abord, je dois vous dire que le sujet, j'ai décidé de me faire souffrir aussi. Le sujet est difficile, il est lourd, la formulation est complexe, massive. Et puis en plus, sur le fond, le sujet est assez difficile. Comme vous le savez, l'étudiant doit faire l'analyse des termes du sujet.
Alors là, pour obtenir la problématique, on le dit tous les soirs, mais on le redit encore une fois,
c'est
évidemment.
C'est toujours mieux.
Oui, c'est même quasiment la moitié du travail, obtenir la problématique, la question, l'axe, l'angle.
Voilà, et pour l'obtenir, il faut d'abord regarder un peu les termes du sujet. Là, on a deux verbes, pouvoir, juger, un adverbe, verbe objectivement, deux substantifs, valeur et culture. Bref, il faut un peu d'abord défricher tout ça, et ensuite, effectivement, réussir à construire une problématique. En deux mots, la question est de savoir si on peut trouver des critères objectifs, stricts, peut-être même scientifiques, pour savoir et juger quelle est la valeur d'une culture, c'est-à-dire d'une civilisation au sens très large, d'un peuple sans écriture, d'un peuple éloigné, d'une autre culture.
D'un peuple différent. Avant de rentrer dans la fabrication de la problématique, juste une petite remarque sur le sujet. Il est quand même formulé très bizarrement. Est-ce que juger objectivement, ce sujet est tombé au bac il y a deux ans, on le disait hors antenne tout à l'heure. Juger objectivement, c'est un pléonasme. Si on jugeait subjectivement, on préjugerait, non ?
Tout à fait. Il faut juger en évitant le préjugé. Et cette question, elle est justement difficile parce qu'on sait que souvent, on porte des jugements sur les autres cultures. Ah, on s'est fait voler son portefeuille à Naples, ben on va dire ensuite que les Italiens sont voleurs et puis on s'en voudra un peu. Ensuite, ça se passera en Norvège et on se dira ils sont aussi voleurs que les Napolitains. Donc, effectivement, on sait que ce sont des préjugés. Et la question est difficile dans le sens où on se demande si on peut juger objectivement. C'est-à-dire si on peut, non pas connaître, mais juger, c'est-à-dire à la fois porter un jugement qui soit presque aussi juridique que moral, mais aussi que scientifique, c'est-à-dire objectivement, est-ce qu'il y a des critères précis, objectifs, qui nous permettent de dire cette culture, elle vaut. Alors qu'est-ce qu'elle vaut ? Elle vaut tant, elle vaut mieux qu'une autre culture.
Oui, la question même de la valeur est difficile d'ailleurs, hein, parce qu'il y a la valeur des choses au sens le prix qu'on peut leur donner, et puis il y a aussi la valeur des valeurs.
Oui,
c'est-à-dire que vaut le prix qu'on donne à quelque chose.
Évidemment. Alors on peut dire qu'on juge de la valeur d'une culture en disant, bah, celle-ci, elle en est là sur ce critère-là, mais on peut juger de la valeur d'une culture en disant vraiment, elle est bien meilleure, bien plus belle, bien plus digne d'être vécue qu'une autre. Donc c'est effectivement, ce sont beaucoup de termes qui sont ambigus avec lesquels il va falloir vraiment jouer dans la dissertation.
Alors allons-y, jouons, Michel.
Alors jouons en nous demandant. Ce que c'est que pouvoir juger objectivement, trouver des critères objectifs pour juger une culture. Alors, on pourrait partir pour commencer la problématique, pour commencer à réfléchir, à déblayer un peu le sujet. On pourrait partir d'une différence que les élèves connaissent bien en cours, différence entre nature et culture. Bon, et tout de suite, on constate que nature, ça se dit au singulier, mais culture, quand on parle non pas de la culture générale, celle qu'on acquiert en lisant des livres ou en allant au cinéma, par exemple, la culture se dit au pluriel. Et en effet, la diversité des cultures, des groupes humains, elle est irréductible depuis pas mal de temps. Alors évidemment, apparaît la question du point de vue qu'on porte sur les cultures. Le physicien, quand il parle de la nature, il n'a pas besoin de distinguer entre la nature américaine et la nature australienne.
Alors,
quand
il les lois de la nature sont partout les mêmes.
Voilà. Bon. Or, l'anthropologue, celui qui étudie le plus scientifiquement possible les hommes, doit d'abord constater qu'il y a des différences de langue, de religion, de système de parenté, de vie sociale, de vie politique, entre de très nombreux groupes humains. Donc on pourrait partir de là pour se dire, oui, il y a la nature, mais il y a des cultures. Et justement, on va se demander, on va se dire qu'on n'étudie pas les cultures comme on étudie la nature. Effectivement, on porte des jugements. Et les jugements, à la fois, c'est souvent assez strict, assez définitif, mais aussi, on porte des jugements, ça veut dire qu'on n'est pas complètement sûr de soi. C'est pour ça qu'il y a des jugements, d'ailleurs, dans la justice. Parce qu'il faut se rassembler, il faut réfléchir, il faut dire, bon, ben voilà, on juge que ça, c'est bien, que ça, c'est pas bien. Mais en même temps, c'est pas facile parce qu'on juge justement sur la diversité, sur du particulier. Et là, se pose la question, est-ce que ce sont des jugements ou des préjugés ? Alors, quand on évoque les choses qu'on a dites tout à l'heure sur les Suisses qui sont lents ou les Polonais qui aiment la dive bouteille, eh bien, ce sont des préjugés, évidemment. Mais en même temps, est-ce que exprimer des préjugés sur les autres cultures, et puis souvent en avoir honte, essayer de les corriger, est-ce que ça nous interdit de chercher à évaluer les autres cultures, c'est-à-dire à chercher leur valeur et laquelle ? Alors là, dans une problématique, pour commencer une problématique sur le brouillon, il est bien d'essayer de développer deux réponses possibles à la question, mais une réponse assez immédiate. On se dit, si je réponds oui, qu'est-ce qui se passe ? Et si je réponds non, qu'est-ce qui se passe ? Et en fait, on va se rendre compte que si on en reste au niveau du sens commun, c'est-à-dire d'une réponse un peu rapide, un peu immédiate, bah, les deux réponses, elles clochent.
C'est intéressant d'ailleurs ce que vous dites, c'est le syndrome du micro-trottoir. Mm-hmm. Si on demande à quelqu'un, micro-trottoir, son avis, il dira à la fois, il faut respecter les différences, par exemple, c'est l'opinion la plus communément partagée, et c'est la même personne qui dira, les hommes sont tous semblables. De sorte qu'on peut indifféremment balancer, si j'ose dire, deux clichés. Les hommes sont tous semblables, ou alors les hommes sont tous différents. Et c'est pour ça qu'il faut les respecter. Donc, peut-être c'est aussi une façon de s'attarder sur le sens commun de chacun. Le sens commun, c'est-à-dire l'idée reçue en somme, est peut-être une bonne façon de démarrer une dissertation.
Oui, tout à fait. Parce qu'en plus, le sens commun est souvent plein de bonnes intentions et on a envie de dire des vérités, c'est-à-dire à la fois de respecter les autres cultures, mais aussi parfois de dire qu'on est tous égaux, qu'on a les mêmes droits. Et on se trouve dans une situation qui est effectivement compliquée. C'est pour ça que le sujet est passionnant, en fait. Il est exprimé de manière un peu lourde, un peu difficile, mais il est passionnant parce qu'il s'agit un peu de débroussailler à la fois notre envie de respecter les autres, et depuis la décolonisation, on a envie de plus faire comme faisaient les Occidentaux avant, c'est-à-dire de vouloir apprendre à tout prix aux autres comment il fallait se conduire, et qu'on était surtout les meilleurs, mais à la fois se dire qu'il y a des valeurs universelles, peut-être qu'elles existent, et que sans les imposer, on aimerait bien qu'elles puissent s'installer partout dans le monde. Et ça, c'est un vrai problème que la philosophie peut-être va nous aider à résoudre. C'est pour ça que pour moi, l'année de philo et le bac philo sont pas seulement des questions de rhétorique, sont vraiment des vraies questions qu'on n'a parfois pas envie de se poser, mais que là, au moins, pendant 4 heures, on est obligé de triturer un peu.
Soit on n'a pas envie de se les poser, d'ailleurs, soit on a le sentiment qu'on n'a pas le droit de le faire. Or, la philosophie est aussi une façon de libérer, justement, l'aptitude à se poser des questions.
Ah oui, complètement, parce qu'ensuite, les réponses,
il n'y a pas de questions taboues en philosophie.
Oui, et on peut être politiquement incorrect, sans le faire exprès, enfin, sans le vouloir le faire par provocation, mais on peut tout à fait exprimer son opinion à condition de la construire et de l'argumenter. Alors là, si on prend cette question, on va se dire, tiens, je vais proposer une réponse oui ou une réponse non, et on va voir que ça cloche. Première réponse, si on peut juger objectivement de la valeur d'une culture, la culture indienne, la culture kanak par exemple, alors on va émettre des jugements de valeur qui vont hiérarchiser ces cultures, dire que certaines sont moins bonnes que d'autres. On risque alors de tomber dans ce que Claude Lévi-Strauss, ce grand ethnologue qui a 100 ans cette année, appelle l'ethnocentrisme, c'est-à-dire considérer que mon peuple, ma culture, est au centre du monde, comme avant considérer que la Terre était au centre du système solaire. Du cosmos.
Bref, se sentir le dépositaire de valeurs qui transcendent sa propre culture, mais pourtant, on pourrait nous objecter que, même si on défend l'idée d'universel, on pourrait dire, oui, mais l'idée d'universel, elle est elle-même ethnocentrée, européocentrée, par exemple.
Voilà, et un Chinois peut vous dire, cette idée des droits de l'homme, c'est vous qui l'avez inventée, vous avez tout simplement envie de l'imposer partout dans le monde. Alors, quand on est ethnocentriste, on nie la diversité des cultures. C'est-à-dire qu'en fait, on justifie l'attitude qu'a eu l'Occident pendant quand même pas mal de siècles, depuis les grandes découvertes jusqu'à la colonisation dont nous parlions tout à l'heure. Et à ce moment-là, quand on est ethnocentriste, eh ben on considère qu'il y a une de ces civilisations, tiens, ça tombe bien, c'est la nôtre,
c'est la nôtre, oui.
Qui est meilleure que les autres, Le but de ma culture, ce serait au mieux d'aider les autres à accéder à ce niveau merveilleux que j'ai atteint. Bref.
Donc ça, c'est la première piste, première option. On juge et donc on est dépositaire d'une vérité qu'il s'agirait d'imposer pour leur bien-être.
Voilà. Et comme par hasard, c'est la nôtre, donc ça tombe bien, on est les meilleurs et on va aider les autres à le comprendre.
Et alors, deuxième perspective.
Si on ne peut pas juger de la valeur d'une culture, c'est parce que, évidemment, je suis moi-même membre d'une culture. Je suis à la fois juge et partie. Donc dans un jugement, c'est un peu problématique. Mais est-ce que ça signifie que je suis irrémédiablement enfermé dans les valeurs qui sont propres à ma culture, ce qui détruirait l'idée même d'une humanité capable de partager les mêmes valeurs.
C'est-à-dire de l'humanité comme genre, en somme.
Voilà.
C'est-à-dire que dans un cas, ça se fait au détriment des différences, et dans l'autre, ça se fait au détriment de l'humanité comme idée.
Tout à fait. C'est-à-dire que dans le deuxième cas, dans le premier cas, si on était ethnocentriste, dans le deuxième cas, on est relativiste. C'est-à-dire que c'est... je ne vois pas pourquoi l'Occident chercherait à imposer ses droits de l'homme, parce que cette idée vient de l'Occident. Donc, chacun dans son coin, on s'interdit de parler de l'homme, en général, du monde. On s'interdit surtout à améliorer la vie des gens qui sont un peu loin de moi, par exemple. On se dit, je suis français, je parle au nom de la France, parce que je suis de culture française.
Pas d'ingérence.
Pas d'ingérence, mais du coup, on n'a plus grand-chose à dire aux autres. Au mieux, on se respecte poliment, au pire, on se fait la guerre. Puisqu'on n'a rien à s'apporter vraiment les uns les autres. Donc, dans les deux cas, le sens commun, nous, on est bien obligé de l'admettre, nous dit qu'on aboutit à une forme de lutte des cultures. Dans la première, on est les meilleurs, on l'impose aux autres. Dans la deuxième, on n'a rien à dire aux autres. Donc, dans le pire des cas, on se combat. Donc, c'est là où la philosophie, donc aussi ce qu'on a fait pendant l'année de philo, ses lectures, son cours, etc., peut nous venir en aide pour proposer des hypothèses. Moi, je considère toujours les parties d'une dissertation comme des hypothèses.
Auxquelles il s'agirait de donner leur chance, finalement. Voilà. Hein, pour en mesurer, peut-être d'ailleurs, occasionnellement, les limites, ce qui justifierait le passage à une autre hypothèse.
Tout à fait. Et moi, c'est ce que je réponds souvent aux adversaires de la dissertation. Répondre par trois parties, c'est aussi une manière d'écouter d'autres voix que la sienne, qui sera celle à laquelle vous donnerez des sens dans la dernière partie, d'écouter les autres, de développer leurs arguments, et puis là encore d'argumenter, de dépasser les arguments des autres pour arriver à la dernière hypothèse qui sera la vôtre et que vous défendrez, mais en passant par deux autres hypothèses, première et deuxième partie. Donc, pour échapper à la fois à l'ethnocentrisme et au relativisme, on peut proposer trois hypothèses. La première est celle suivant laquelle il y a quand même des critères objectifs. Il y a des réalisations qui sont tangibles, qui sont vérifiables et qui nous permettent de juger de la valeur d'une culture par rapport à certains critères objectifs.
Pour le dire rapidement, la première partie, c'est la partie qui donne sa chance à l'hypothèse de l'universel.
Oui, c'est ça. C'est-à-dire qui pense que il y a certaines choses qui sont vraiment scientifiquement déterminables, quantifiables, identifiables, et qui font que, il y a certaines civilisations, certaines cultures qui, sur ce point, sont en retard par rapport aux autres.
Qui bafouent l'humanité comme genre, par exemple.
Voilà, par exemple.
On pourrait dire à l'appui alors de cette thèse, je ne sais pas comment vous allez articuler cette partie, mais à l'appui de cette thèse ou de cette hypothèse, on pourrait par exemple envisager, l'exemple d'une culture qui n'est pas la nôtre, mais qui pratique l'excision.
Oui.
Tout simplement. Et considérer que, au nom de valeurs objectives, il est impossible, infâme, innommable d'exciser une jeune fille.
Oui, par exemple. Alors, dans cette première partie, moi, j'étais plus terre à terre.
Allez-y.
Je partais davantage de choses très simples comme la pratique de l'agriculture, de l'élevage, de la poterie, de la métallurgie, de l'écriture, d'un État.
Ah oui, vous êtes très pacifique dans vos exemples, mais vous avez raison, allez-y.
Pour l'instant, oui.
Allez-y.
C'est-à-dire que comme on cherche à avoir des critères objectifs, on se dit, prenons des choses qu'on connaît, l'écriture, les sciences qui sont transmises de génération en génération. Et donc, on se dit que ces phénomènes-là, qu'étudient l'histoire, l'archéologie, la paléontologie, les sciences humaines, sont des faits objectifs. Alors, ça nous permet de trouver véritablement des critères. Par exemple, il y a certaines compétences techniques qui nous permettent d'avoir une vie plus sophistiquée, voire plus efficace, voire meilleure, que des civilisations où ces compétences techniques sont absentes. Un exemple très simple, Lévi-Strauss, il est ethnologue, il va étudier des peuples lointains au Brésil. Il prend un bateau ou un avion, il prend un enregistreur, il prend un appareil photo, il sait écrire. Et il va étudier des peuples comme les Bororo. Mais les Bororo, ils vivent tout nus pratiquement, ils n'ont pas l'écriture, ils n'ont pas l'appareil photo, ils n'ont pas l'avion. Donc l'ethnologue, il va, parce qu'il le peut techniquement, étudier le peuple sans écriture, mais le Bourreau n'ira pas faire l'ethnologie du français. Donc, on se dit dans cette première partie, qui laisse sa chance, évidemment, toujours au sens commun, que, eh bien, s'il n'y a pas d'ethnologue Bourreau en France, c'est à cause de faits techniques avérés. Alors ça, c'est la chose qu'on peut proposer comme hypothèse au début. Mais évidemment, comme on la discute, on va voir que ça cloche un peu. En effet, le choix des critères que j'ai proposés, il est très significatif. Je n'ai cité que des inventions dont nous profitons, nous occidentaux, parce qu'ils font partie de notre histoire. Révolution néolithique, où on invente l'agriculture, l'élevage, les outils, etc. L'invention de l'écriture et de l'État, autour de 3000 ans avant Jésus-Christ. L'apparition des sciences en Égypte, en Inde ou en Grèce. Bref, on a choisi des critères qui sont les nôtres. Et ensuite, on cherche à les appliquer partout dans le monde. Or, nous, occidentaux, est-ce qu'on sait utiliser les plantes comme le font certains peuples, par exemple, de Nouvelle-Calédonie? Est-ce qu'on peut résister à des températures extrêmes comme les Touaregs ou les Inuits?
On a, pour le coup, un exemple tout trouvé dans l'actualité récente, puisqu'on a découvert des peuples dont on ne connaissait même pas l'existence, au cœur même de l'Amazonie, qui, voyant un hélicoptère, ont cru voir un adversaire, un ennemi, un dieu, je ne sais pas, et l'ont menacé de leur lance et lui ont tiré des flèches. On est typiquement, là, pour le coup, au cœur du sujet, puisque l'objectif, désormais, c'est de préserver cette culture, c'est-à-dire les préserver du contact même avec ceux qui les observent.
Oui, tout à fait. C'est-à-dire qu'on a envie non plus d'imposer nos critères et puis finalement d'abîmer cette culture, mais de la préserver. Et donc, pour terminer là-dessus, Lévi-Strauss nous explique très bien qu'un caduveo, un Indien du Brésil qu'il a étudié dans Triste Tropique, un caduveo, lui, nous trouverait, nous occidentaux, totalement indécents parce qu'on a des sourcils. On ne s'épile pas les sourcils. Ni vous ni moi, nous n'avons les sourcils épilés. Or, un caduveo trouve que montrer ses sourcils, c'est comme nous montrer nos parties génitales en public. Ça ne se fait pas. C'est trop naturel. C'est dégoûtant. Bref, un Mélanésien, dernier exemple, utilise un vocabulaire pour désigner les nuances du vert beaucoup plus important que le nôtre. Bref, dans un premier temps, avec le sens commun, j'ai choisi des critères qui sont propres à l'Occident, que j'ai cru scientifiques et objectifs. Mais en fait, en réfléchissant un peu avec Lévi-Strauss, nous nous rendons compte que d'autres critères pour évaluer les cultures sont possibles et que ces peuples du Brésil ont des critères tout aussi valables que les nôtres.
Renvoyons tout de suite l'étudiant quand même, avant d'avancer dans l'argumentation. Michel Eljaninov avec vous. Renvoyons tout de suite l'étudiant à deux textes, peut-être de Lévi-Strauss, Triste Tropique, que vous avez cité, et cette fameuse conférence Race et Histoire.
Tout à fait.
Qui vraiment sont les deux textes qu'on peut lire en terminale.
Voilà, Race et Histoire, où il y a un chapitre sur l'ethnocentrisme qui est très court et qui vaut la peine d'être lu avant le bac, je pense.
Très utile, oui, absolument. Allez-y.
Donc, pour terminer cette première partie, nous dirions que nous avons essayé de proposer des critères objectifs, mais en fait, on se rend compte qu'ils sont tributaires de notre propre histoire. Donc, transition. Pourquoi, au lieu de chercher des critères qui sont en plus en fait dépendants de la culture, ne découvririons-nous pas un seul critère véritablement universel? Et ce critère, on le trouve chez certains philosophes qui disent que la culture, ça s'oppose à la nature. Donc la nature et l'homme à l'état de nature a bien existé. Et donc le critère pour évaluer une culture...
C'est le fait même d'y accéder.
Oui, tout à fait. C'est le fait d'y accéder et de voir de combien on s'est éloigné
de
la nature. Et donc dans une deuxième partie, je serai moins ethnologue, je serai plus philosophe, j'irai vers le XVIIIe siècle, j'irai vers Jean-Jacques Rousseau, que beaucoup de lycéens, d'étudiants connaissent, et je me demanderai si avec l'éloignement par rapport à la nature, eh bien, nous n'avons pas un critère objectif pour évaluer justement les cultures, pour voir quelles sont leurs
valeurs.
Alors,
renvoyons cette fois-ci, donc vous avez cité Jean-Jacques Rousseau, peut-être le texte que vous avez en tête est un extrait du fameux discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, dans lequel Jean-Jacques Rousseau, c'est à la fin de du portrait de l'homme physique, l'homme à l'état de nature, il accède au portrait de l'homme métaphysique et moral. Et c'est le moment où Rousseau dit que, à la différence de l'animal, végétarien qui se laisserait mourir sur un tas de viande, l'homme est capable de changer ses habitudes et que c'est ce qui fonde justement son entrée dans l'histoire, sa perfectibilité, mais également, dit Rousseau, sa corruption.
Tout à fait. Et c'est cette magnifique ambivalence d'à la fois de la liberté et de la perfectibilité de l'homme, qui est un mot tout neuf au XVIIIe siècle que Rousseau utilise à l'heure, l'ambivalence de cette capacité de s'élever au-dessus de la nature, de rentrer dans l'histoire, mais aussi de se corrompre, de s'abîmer, de devenir menteur, artificiel, vaniteux.
Dans l'amour propre.
L'amour propre, évidemment, qui remplace la pitié, qui ne nous ouvre plus à autrui comme l'être brut et naturel. Eh bien, cette entrée dans l'histoire, c'est à la fois un bénéfice évident de certains points de vue, c'est à la fois une tragédie, mais c'est aussi un outil qui peut-être nous permettrait donc de voir de combien on s'est éloigné de la nature. Alors, avec Rousseau, peut-être qu'on tient ce critère. Alors là, dans une deuxième partie, j'utiliserai, par exemple, le second discours, le discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes. Et je montrerai que, pour Rousseau, eh bien, nous, par exemple, français ou anglais du 18e ou du 20e siècle, nous sommes très loin de ce qu'on appelle les sauvages, qui vivent en communion avec la nature et qui n'ont pas acquis tous ces artifices, au fond, assez inutiles et assez dévastateurs, notamment vis-à-vis de la nature. Aujourd'hui, l'écologie nous le montre, que ont acquis les civilisations occidentales. Alors, je propose cette idée, mais évidemment, comme ce n'est pas ma dernière hypothèse, je vais aussi la critiquer. Je vais montrer que ce critère de l'éloignement par rapport à la nature, chez Rousseau, pose au moins deux problèmes. Premier problème, si le critère, c'est de combien on s'est éloigné de la nature, eh bien, on peut tout à fait inverser la perspective et dire que le meilleur état, c'est celui où on s'est le plus éloigné de la nature. On a acquis la médecine, l'hygiène, certaines formes de civilisation qui, au contraire, nous montrent qu'on a bien fait de s'éloigner de la nature. Donc, on peut tout à fait renverser l'argumentation rousseauiste. Deuxième problème, Rousseau sait très bien qu'on ne peut pas revenir en arrière. L'homme est perfectible, justement. Il ne peut plus, comme le raillait Voltaire, marcher à quatre pattes.
Oui, ça c'est une fameuse lettre de Voltaire à Rousseau qui, après le discours dont nous parlons, Voltaire écrit à Rousseau en lui proposant de venir à Ferney brouter l'herbe de nos vaches, disait-il, voilà. Absolument. Oui.
Et Voltaire a manifesté là à la fois son humour et sa mauvaise foi, puisque Rousseau savait très bien qu'on ne peut pas revenir en arrière. On peut rêver d'une vie sauvage, mais on ne peut plus vraiment la réaliser. Donc, transition vers la dernière partie. À la fin de ce discours sur l'origine et les fondements d'inégalité parmi les hommes, Rousseau a peut-être une solution. Il dit que si on changeait de régime, même dans un état aussi corrompu que le nôtre, si par exemple on suivait les recommandations qu'il nous proposera plus tard dans son contrat social, eh bien on pourrait créer une sorte de nouvel état de nature, une société, une culture où les gens seraient enfin libres et heureux.
Retrouver les linéaments, par exemple, de l'amour de soi qu'on a perdu en entrant en société. Rousseau oppose de façon très formelle, et c'est magnifique d'ailleurs, l'amour de soi à l'amour propre. Ça fait partie des distinctions auxquelles on peut accéder en terminale sans difficulté.
Tout à fait. Et donc, dans par exemple une fraternité dans un nouveau contrat social, peut-être que là, on retrouverait autre chose. Finalement, c'est ce vers quoi nous oriente cette remarque finale de Rousseau. Finalement, est-ce qu'il ne faudrait pas juger politiquement ce qu'est une culture ? C'est-à-dire, au lieu d'utiliser des critères qui sont soi-disant objectifs, au lieu d'utiliser un critère qui est quand même un peu mythologique, la nature pure, pourquoi est-ce qu'on n'essaierait pas de proposer des critères qui soient universalisables, universellement acceptables par d'autres, et notamment par d'autres cultures, mais qui essayent quand même de construire une vie meilleure pour tous? Et ça serait l'hypothèse que je développerai en troisième partie, hypothèse qui m'est évidemment propre en tant qu'individu, mais que je proposerai moi, que j'essaierai d'argumenter pour dire qu'entre ethnocentrisme et relativisme, on peut essayer quand même à la fois de respecter les autres cultures et de penser un destin commun pour l'humanité.
Alors, comment est-ce qu'on construit cette hypothèse, Michel Janinov ? Comment est-ce qu'on concilie ces deux dimensions ? Puisqu'on a bien vu comment votre devoir était construit sur la tension, finalement, entre l'hypothèse ethnocentriste, qui, pour le bien des autres, prétend leur imposer une vérité qu'elle est seule à détenir, et l'hypothèse relativiste, qui, prétendant d'ailleurs respecter les différences d'autrui, ménage en autrui ce qu'il peut y avoir d'objectivement détestable. Alors, comment concilier ces deux dimensions ?
Alors, ce n'est pas facile. Mon idée que je proposerais donc, ça serait d'abord l'idée que certains critères méritent d'être jugés universellement. Notamment, on sait que la démocratie n'est pas un donné mais une conquête, qu'un État dans lequel les décisions sont prises en commun, dans lequel on n'est pas soumis au beau vouloir du chef et de ses amis, mais on peut défendre ses droits, n'est pas quelque chose qui est donné par la nature, quelque chose qui s'est construit historiquement, d'ailleurs dans beaucoup d'endroits.
La dictature est un fait culturel.
Tout à fait. La dictature, heureusement, n'est pas non plus un donné. Ce qui fait que ce que nous appelons, nous, ce respect de chacun, qu'on peut parfois appeler droit de l'homme, s'il a une forme occidentale que nous connaissons, peut être développé à partir de cultures extrêmement diverses, et la chinoise, l'indienne comme l'iranienne. Et d'ailleurs, un des rédacteurs de la Déclaration universelle des droits de l'homme était chinois. Donc, il n'y a pas d'antagonisme de principe entre des cultures très différentes et l'idée suivant laquelle on peut construire une vision politique qui soit à peu près vivable et un respect des individus qui la composent. Bref, l'idée, c'est pas de dire qu'il y a une forme unique de vie sur Terre, mais de proposer des idées universalisables. C'est-à-dire de dire que ce que je propose, ça vaut peut-être pour tous. Ça ne veut pas dire l'imposer par les armes. Ça veut dire que peut-être toute culture serait même de le développer de son propre fond pour l'apporter.
C'est de cette façon-là donc que vous répondez à cette alternative, Michel Chaniev. Est-ce que je voudrais quand même vous proposer une autre issue, histoire aussi de montrer aux étudiants qu'il y a plusieurs façons de construire une dissertation, de la conclure et qu'après tout, l'essentiel est d'être rigoureux dans une démarche. On peut considérer aussi que, souvent d'ailleurs en terminale, on dit le sceptique, c'est bien le sceptique, parce que d'abord ça éveille l'esprit, le scepticisme, et puis ça rend tolérant. Et puis au bout d'un moment, on mesure les limites évidemment du relativisme en disant « bah oui, mais on peut pas tout tolérer, etc. » Et en général, l'exemple canonique qu'on prend, c'est le chapitre des essais de Montaigne sur les cannibales. Et dans ce chapitre, alors ce qui est extraordinaire, c'est qu'en terminale, tout le monde cite ce chapitre et personne ne l'a lu. J'ai fini par lire ce chapitre des années après l'avoir cité dans des dissertes de terminale. Et lisant ce chapitre, en général, ce qu'on reproche à Montaigne, c'est de dire « oui, Montaigne refuse de juger les cannibales, refuse de dire que le comportement des cannibales est pire que le nôtre. » Mais Montaigne fait mieux que ça, si j'ose dire. Montaigne juge l'homme sceptique par excellence qui était Montaigne. Il juge les cannibales et il juge qu'ils sont meilleurs que nous. Pourquoi le sont-ils? Tout simplement parce que les cannibales font brûler des individus, mais pour les manger. Au moins, ça a un sens. Alors que nous faisons brûler des individus parce qu'ils n'ont pas la même religion que nous. De sorte que on pourrait imaginer, je ne sais pas ce que vous en pensez, on va terminer l'émission sur cette hypothèse si vous voulez bien, mais on pourrait imaginer la possibilité d'une absence de référence à toute valeur absolue. Montaigne était sceptique, il n'adhérait à aucune valeur, il ne se prenait pas pour le centre du monde. Et en même temps, cette absence de référence n'empêche pas la possibilité ponctuelle de juger des vices et des vertus comparées d'une culture. Qu'en pensez-vous ?
Oui, je pense que Montaigne, à travers son scepticisme, s'est aussi beaucoup battu pour une forme de tolérance. C'est-à-dire que ce qui est toujours paradoxal, c'est que quand on met en avant la diversité et quand on se permet même d'essayer de se mettre à la place de l'autre et de considérer qu'ingérer l'autre est une forme d'honneur qu'on lui fait en le mangeant, eh bien, quand on est capable d'aller autant vers les autres, eh bien, en même temps, on promeut, peut-être même sans le dire, ce qui peut-être est la suprême élégance, des valeurs qui sont les valeurs, justement, d'écoute et de respect. Et donc, moi, je suis persuadé que Montaigne, à travers ce chapitre, développe justement à la fois avec ce merveilleux goût un peu de la provocation, du paradoxe, mais aussi en sérieusement se mettant à la place de l'autre, promeut quand même, sans le dire forcément, cette idée que chaque culture peut construire dans sa compréhension de l'autre, donc grâce notamment aux sciences, à la connaissance de l'autre, une forme de vie qui soit vivable les uns avec les autres. Donc je pense que, d'ailleurs, comme plusieurs plans sont possibles, comme plusieurs problématiques sont possibles, bien heureusement, chacun a la nôtre, il suffit de l'argumenter, eh bien, cela veut dire aussi que nous sommes capables de nous écouter, de dialoguer. Et je pense que c'est aussi ce que voulait dire Montaigne.
C'est sur cette conclusion, Michel Etchaninov, que l'émission s'arrête. Je vous remercie d'y avoir
Merci
participé. Alors, on pourrait rappeler d'ailleurs rapidement les quelques références qui s'imposeraient sur un tel sujet, enfin qui s'imposeraient. Aucune ne s'impose, mais enfin, elles sont utiles. Le second discours de Rousseau, discours sur l'origine et les fondements de l'inégalité parmi les hommes, Triste Tropique et Race et Histoire de Lévi-Strauss. Montaigne, le chapitre sur les cannibales. De mémoire, c'est le chapitre 35 du livre 1 des essais, mais je ne suis pas sûr.
Moi non plus.
Bon, et peut-être les lettres persanes de Montesquieu, dont nous n'avons pas parlé, ou Micromégas de Voltaire, qui reprend un peu la même thématique. En tout cas, Michel Etchaninov, je signale également que vous avez fait paraître en 2007 un essai en collaboration avec Sven Ortoli, un manuel de survie dans les dîners en ville au Seuil, à ne pas lire avant le bac, mais à lire tout de suite après, c'est formidable.
C'est pas trop ethnocentriste.
Non, c'est pas trop ethnocentriste, absolument. Demain, je recevrai Aïda Ndiaye, qui enseigne la philosophie en terminale au lycée des Sept-Mares à Morpa, dans les Yvelines, qui a collaboré notamment au hors-série de Philosophie Magazine, le guide de survie du bac philo dont nous sommes partenaires toute cette semaine, qui est disponible en kiosque jusqu'à la fin du mois et en vente aussi en ligne sur le site de Philosophie Magazine. Je rappelle enfin que vous pouvez réécouter ces émissions pendant un mois sur notre site et qu'exceptionnellement, elles sont toutes podcastables, comme on dit, pendant une semaine. Vous trouverez également sur le site des Nouveaux Chemins de la Connaissance toutes les informations, les conseils de lecture et les biographies de nos intervenants. À la technique aujourd'hui, c'était Bruno Gagnère. À la réalisation, François Connac. Assistante, Geneviève Méric, Avril Ventura, Marion Richer. France Culture, il est 20h.